C'est l'heure de politique en partenariat avec Slide.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous.
Bonsoir Roselyne.
Alors si parfois la politique française nous désole, regardons plus loin, outre-Atlantique, où deux hommes ont fait ces derniers jours des déclarations menaçantes. Donald Trump et Elon Musk semblent vouloir imposer leur loi avant leur arrivée à la Maison-Blanche. Trump lorgne sur le Groenland qu'il rêve d'annexer. Musk critique les Européens, traitant le chancelier allemand d'imbécile incompétent, et exige la démission du Premier ministre anglais pour l'envoyer en prison. Mais il soutient l'extrême droite, l'AFD, en Allemagne. Et en France, qui est invité à la cérémonie de Donald Trump ? Éric Zemmour. Non, ce n'est pas un gag. En France, le gouvernement Bayrou continue de négocier pour éviter la censure. Le Parti socialiste est au cœur du dilemme et de deux questions fondamentales. Le PS va-t-il se décrocher des insoumis et empêcher le RN de faire la pluie et le beau temps ? En clair, les socialistes vont-ils retrouver leur autonomie stratégique et cesser d'obéir à Mélenchon qui veut bloquer le système ? On en parle avec Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche. Bonsoir.
Bonjour,
à vous.
Bonsoir, Rosine, bonne année.
Bonne année à vous.
Oui.
Et vous arrivez avec plein d'infos, donc on va savoir ça. Bonne année à vous aussi, Catherine Tricot, donc directrice de la revue Regard. Merci d'être là. Bonsoir. Et à vous, meilleurs voeux, ma chère Carole, éditorialiste politique.
Merci d'être là. Bonsoir, Rosine, et bonne année.
Et en fin d'émission, Véronique Reiss-Soult pour sa chronique sur les réseaux. Il sera question des réactions à la mort de Jean-Marie Le Pen et de Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, qui a arrêté la modération sur Facebook, sans doute pour plaire à Donald Trump. Alors, on l'a appris ce matin, quel est le seul invité surprise à la Maison-Blanche le 20 janvier pour assister à la cérémonie d'investiture de Trump ? Eh bien, je vous l'ai dit, Éric Zemmour. Alors là, j'emprunte l'expression favorite de Jean-Marie, on se pince.
C'est son choix, c'est le choix de Donald Trump.
Non, mais c'est pas une blague.
Non, c'est pas une blague, vous avez raison. Bon, il y aura des représentations sans doute aussi d'ambassadeurs, comme c'est le cas dans les cérémonies d'investiture. Mais c'est vrai que Éric Zemmour, comme représentant de la vie politique française, c'est pas dans l'ordre des plus capés, c'est pas celui auquel on pense en premier. Surtout, on avait entendu qu'il y avait eu cette fausse vraie invitation autour de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était bien embarrassée, en tous les cas autour d'elle, sur l'opportunité ou pas, si elle recevait une invitation, d'y aller ou pas. Ça semblait pas si simple que ça. Et sans doute que de ce point de vue de l'Atlantique, y compris pour Marine Le Pen, Trump, c'est pas forcément
Ce n'est plus, en tout cas.
Bah, ça dépend, parce qu'en Europe, certains apprécient beaucoup Trump, on en parlera sans doute, mais pour Marine Le Pen, ce n'était pas forcément un cadeau, ou un cadeau empoisonné.
Voilà.
Selon.
Jean-Marie, par quelle opération du Saint-Esprit Éric Zemmour atterrait à la Maison-Blanche ?
Je ne sais pas qui a renseigné la Maison-Blanche, mais c'est vrai que ça paraît très, très surprenant, parce que si on veut représenter l'extrême droite ou les courants de droite radicale, on va chercher autre chose que quelqu'un d'autre, qu'Éric Zemmour, qui ne représente au fond que lui-même très peu, alors que Marine Le Pen ne cesse de le dire. Elle représente, avec sa compagne, qui est élue, la seule élue de ce mouvement au Parlement européen, c'est elle. Mm. Alors que Marine Le Pen, elle le répète assez souvent, représente 11 millions de Français, donc c'est évidemment un peu surprenant. Ce qui est un peu curieux dans ces hésitations, de la part de Marine Le Pen et des gens comme elle, c'est que la fois précédente, elle était allée rechercher l'onction chez
Vladimir. Elle n'avait pas reçu d'ailleurs.
Chez Poutine.
C'est Poutine.
Et puis la première fois aussi Trump était candidat, elle avait essayé d'être reçue par Donald Trump, qu'elle avait vaguement croisé dans le hall d'un des immeubles Trump à New York. Donc voilà. Mais pourquoi ont-ils besoin de cela alors qu'ils sont censés représenter des mouvements nationalistes, donc des mouvements qui plaident en principe pour l'indépendance et qui n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs un quelconque certificat. Donc c'est ça qui me surprend toujours.
Bon, vous avez... allez-y. Et
après... Non, je veux dire qu'il y a une certaine logique de la part de Donald Trump. ou de ses conseillers, d'inviter Éric Zemmour, parce que, bon, d'abord, Zemmour a été l'un des rares à saluer la victoire de Trump, voilà, en expliquant que c'était une victoire contre le wokisme, et on sait que c'est un cheval de bataille que Donald Trump a enfourché. Et les Européens, alors, il y en aura peut-être d'autres d'ici le 20 janvier, on va voir, mais dont on sait qu'ils sont invités par la Maison-Blanche aujourd'hui, c'est justement Éric Zemmour et Sarah Taffo, Giorgia Meloni, qui elle aussi a fait campagne, non seulement sur les fondamentaux, sécurité, immigration, mais également contre le wokisme et la cancel culture, et Viktor Orban, enfin, ce sont des gens comme ça. Ouais. Donc il y a une sorte de cohérence idéologique, je dirais.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Carole, c'est-à-dire qu'en fait là il ne s'agit pas de représentation diplomatique, c'est pas ça qui se joue. Je pense que évidemment Trump avec son partenaire actuel Elon Musk, on ne sait pas combien de temps ça durera parce qu'il y aura probablement des antagonismes d'intérêt et de personnalité, mais en tout cas pour l'instant l'axe idéologique et politique de Trump c'est quand même un axe extrêmement dur sur le plan des valeurs, donc c'est le libertarisme, c'est la remise en cause de l'État réduit à sa plus faible proportion et
avec, en matière
économique avec une politique expansionniste extrêmement pro-business puisqu'en fait on voit que les territoires que Trump envisage de conquérir sont des territoires qui doivent servir l'industrie américaine. Donc je trouve qu'il recentre, dans le débat à l'intérieur de l'extrême droite, Trump est sur une position et il invite son interlocuteur français, il le met en scène, comme il met en scène l'AFD, comme il met en scène l'extrême droite anglaise, de ce point de vue, qui est raccord avec leur vision idéologique.
Alors, certains m'ont cessé de rire après le 20 janvier, Donald Trump a donné le ton sur ses intentions, ces désirs expansionnistes, justement, vous l'avez dit. On écoute Donald Trump.
Nous allons changer le nom du golfe du Mexique en golfe de l'Amérique, ce qui sonne bien et couvre beaucoup de territoires. Le golfe de l'Amérique, quel joli nom! Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire, mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer, car nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. C'est pour le monde libre.
Voilà Jean-Marie, le Groenland, aussi le Canada qui aurait vocation, si on écoute Trump, bon, on ne l'a pas dans cet extrême, mais à être le 51e État d'Amérique. C'est un expansionnisme, évidemment. On peut dire, est-ce que c'est inquiétant ou ce sont de simples coups de menton habitué,
c'est toute la question avec Trump, mais je pense quand même qu'il faut toujours le prendre au sérieux. Et si on le prend au sérieux, on a de quoi en effet être inquiet. Parce que son positionnement général, c'est quand même une attitude très agressive vis-à-vis de l'Union européenne. Il faut se rappeler qu'il a toujours placé l'Union européenne comme un adversaire stratégique de l'économie américaine et des États-Unis, alors même que ça contredit, je veux dire, tout l'ancrage, j'allais dire, euro-atlantique qui dominait dans les relations entre l'Europe et les États-Unis jusqu'à présent. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que jusqu'alors, et notamment c'était la doctrine de Joe Biden, mais pas seulement, l'Occident, entre guillemets, faisait face à une nouvelle doctrine édictée par l'accord stratégique qui existe entre la Russie et la Chine de Xi Jinping. Et cet accord stratégique dit qu'il faut se débarrasser de l'idéologie qui a présidé aux organismes et à l'organisation du monde issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire principalement l'ONU et ses agences, et d'une certaine façon le primat de la diplomatie sur les politiques de force. Et cet axe-là, qui est quand même ouvertement hostile à l'Occident, est rejoint aujourd'hui par Donald Trump, si on le suit vraiment dans ses ambitions, y compris ses ambitions territoriales. Donc c'est vraiment un ébranlement très profond si Trump va au bout de cette logique-là, et un ébranlement qui remettra en cause tout ce sur quoi notre sécurité repose. Et donc pour nous, je pense que pour nous Européens, c'est vraiment une affaire décisive qu'il faudra suivre, évidemment, au gré de ce que dira Trump, parce qu'on dit toujours, pour se rassurer, on dit « Ah oui, mais il est imprévisible ». Il n'est pas si imprévisible non. Et ce qu'il énonce. Et là,
il est même mieux préparé que la dernière fois.
Ouais, absolument. Ouais. Et l'autre aspect où il se rejoint avec Poutine, pour le coup, c'est aussi l'hostilité, l'obsession de défaire l'Union européenne. Et de défaire l'Union européenne, donc en s'appuyant sur les forces qui peuvent la miner de l'intérieur, c'est-à-dire les forces d'extrême droite. Donc Orban et son de la démocratie illibérale. Donc Farage, avant à l'époque du Brexit, est maintenant une nouvelle tête pour l'extrême droite britannique. Et surtout l'AFD. Parce que l'AFD en est Allemagne, un parti composé de vrais néo-nazis. Donc il faut voir avec quoi il joue, ce Donald Trump. Et donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines.
Oui, surtout qu'il faut ajouter à ce dossier de manière très courte la question des barrières douanières. C'est-à-dire que l'Europe va vite être au pied du mur. Comment elle n'a pas défini sa stratégie. On n'entend pas Ursula von der Leyen sur cette question. On ne sait pas exactement comment elle va riposter. Est-ce qu'elle va être dans une riposte, dans une offensive, riposte offensive, ou est-ce qu'elle va être sur la défensive ?
C'est pas elle qui décide.
Enfin, c'est pas elle qui décide.
Non, sur les chefs de gouvernement.
Les chefs de gouvernement. Mais la commission elle-même n'a pas arrêté sa position qu'elle peut aussi défendre devant les chefs de gouvernement. On sait en tous les cas qu'Emmanuel Macron lui l'a donné un peu de ce qu'il pense sur cette affaire, c'est-à-dire que lui il sera pour une riposte très offensive et en tous les cas ne pas se laisser faire sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que il peut y avoir beaucoup de divisions européennes sur la question des barrières d'honneur, et c'est une question qui va se poser dès la fin du mois là.
Il y a Christine Lagarde aussi. Et Christine Lagarde aussi qui a commencé à donner son opinion, qui a plutôt donné une opinion conciliante. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de ménager les relations économiques avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, à l'intérieur de l'Europe, il n'y a pas un point de vue unanime. Il n'y a pas de point de vue unanime entre les États et à l'intérieur même des grands dirigeants
des institutions.
Vous avez raison que Ursula von der Leyen, on ne sait pas encore quelle position elle va prendre, mais Christine Lagarde n'a pas pris une position très offensive actuellement.
Pas plus que les Danois qui ont eu une réaction incroyable. Le Groenland est quand même rattaché au Danemark. Et franchement, la réaction des Danois était extrêmement mitigée. Donc on se demande si tout ça ne va pas se terminer quand même par un accord.
Un accord, oui.
Dans lequel les États-Unis auraient droit d'avoir une base militaire supplémentaire par rapport à celle qu'ils ont déjà. Et le droit d'exploiter des gisements.
Mais en contrepartie de quoi pour les Danois?
Avec des contreparties financières pour le Danemark, peut-être. Bon, mais en tout cas, la réaction très soft, je dirais, des Danois laisse présager un accord possible. C'est pas exclu.
Alors, à propos d'accord, justement, on revient en France avec mardi prochain déjà François Bayrou qui prononcera son discours de politique générale. En attendant, le ministre de l'économie Éric Lombard et Amélie de Montchalin, ministre du budget, négocient en coulisses avec les chefs de parti et les partenaires sociaux. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, semble vouloir se défaire cette fois vraiment de la tutelle de Mélenchon, qui d'ailleurs a tweeté, Mélenchon, aucun accord de non-censure du PS et de Europe Écologie Les Verts ne nous concernera jamais. Cette façon de négocier dans le dos du NFP et contre son programme est une forfaiture d'un irrespect total pour notre alliance. Mais nous dormirons tranquilles. La petite gauche traditionnelle n'a rien à offrir et ses négociations sont juste ridicules et serviles. Voilà un Mélenchon en colère. Et ce matin, je vous propose d'écouter la réponse, en quelque sorte, d'Olivier Faure.
Ce n'est pas moi qui romps, c'est Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui, par son intransigeance, par son obsession présidentielle, et je le dis au passage, moi je veux bien qu'il y ait une élection présidentielle demain matin, c'est dans 35 jours si le président démissionne, 35 jours. Et bien, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est persuadé que c'est lui qui l'emportera ? Est-ce que ce n'est pas Marine Le Pen qui peut l'emporter ? Mais ce que je veux, c'est que à la fin de cette histoire, on n'ait pas déstabilisé le pays, et qu'on n'ait pas, après Trump, en plus, ici, une Giorgia Meloni ou en tout cas une Marine Le Pen.
Voilà Bruno, je ne veux pas déstabiliser le pays. Est-ce que le premier secrétaire du Parti Socialiste est en train de prendre conscience que la stabilité du pays est entre ses mains en quelque sorte ?
Oui. Oui. Olivier Faure a changé de discours entre ce qu'il disait au moment de la censure et ce qu'il dit ce matin et même depuis quelques jours, depuis la première rencontre avec Éric Lombard. Le Parti Socialiste a décidé de rentrer en discussion avec le ministre de l'économie, qui est lui-même chargé par le Premier ministre, de trouver cet accord de non-censure. Et ils ont choisi que cet accord de non-censure passe par la question des retraites. Et ça peut paraître étonnant que ce soit le ministre de Bercy qui s'empare de ce dossier, qui reste aux mains des deux ministres en charge, mais pour les questions de discussion avec les syndicats. Mais la négociation politique est menée par M. Éric Lombard, qui n'est absolument pas connu du grand public, qui a été présenté comme un grand techno ou un grand banquier, mais qui, en fait, est là pour faire de la politique. Et en fait, il sait faire de la politique.
Ouais.
Il sait faire de la politique parce qu'il a un parcours politique.
Mais
Et il est missionné par François Bayrou pour trouver cet accord. Et cet accord est en train de se discuter.
Donc c'est quoi, un accord gagnant-gagnant, mais sur quoi, par exemple?
C'est un accord qui sera forcément un accord à minima sur cette question des retraites, qui consiste à trouver les leviers. On est entre... tout est sur la table. Le ministre de l'économie a dit que même la question des 64 ans était ouverte. Il discute de tout. Il s'est passé quand même quelque chose hier soir. Ça fait bien au moins une dizaine d'années que une partie des forces de gauche n'ont pas dîné après une réunion de travail à Bercy. Ça s'est terminé autour de minuit. Tous ces gens ont visiblement discuté et travaillé en bonne intelligence. Oui. On voit bien qu'ils sont en train d'essayer de trouver un accord. Est-ce qu'ils vont tous rester à la fin sur cet accord? Est-ce que les socialistes qui ont réussi à convaincre les communistes et les écologistes de venir avec eux, franchement, en quelques jours, là, le climat a changé.
Ouais.
Le climat a changé. Est-ce que ça va aboutir d'ici la déclaration de politique générale?
Si on vous écoute, on a l'impression que oui.
Je pense que oui. Je pense que oui, ça aboutira d'ici la déclaration de politique générale, parce qu'en plus, Éric Lombard s'est engagé à donner une réponse et aux socialistes, et aux communistes, et aux écologistes d'ici mardi. Alors, c'est François Bayrou qui fera l'arbitrage, c'est évidemment lui qui décidera à la fin, mais dans le discours de politique générale, il y aura une réponse, et les partis de gauche feront leur réponse comme le veut, alors pas mardi, mais jeudi, lors de la discussion de censure. À mon avis, on va vite être fixé.
Ce qui me paraît à la fois paradoxal et intéressant, c'est que l'économie est totalement au second plan. Là, on s'interroge sur quels peuvent être les compromis sur la retraite, sur ceci, sur cela. C'est secondaire par rapport au mot clé qui a été enfin admis et compris par les dirigeants socialistes, qui est le mot stabilité. Je crois qu'ils ont compris que la France, enfin les Français, reprocheraient de façon véhémente aux uns et aux autres d'être responsables de l'instabilité. L'instabilité actuelle pèse pour tout le monde. Elle pèse sur l'économie, elle est en train d'affaiblir tout le monde, y compris le pouvoir d'achat des uns et des autres.
Elle a coûté.
Donc le mot clé, c'est le mot stabilité. Donc le PS a réalisé et a enfin compris qu'il était la clé de cette stabilité. C'est-à-dire ne plus se retrouver entraîné par l'accord entre l'extrême droite, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui se sont coalisés contre Michel Barnier et qui l'ont emporté parce que les socialistes ont voté la censure. Si les socialistes cessent de voter la censure, il n'y a plus de majorité pour la censure. Et donc ils ont enfin compris qu'ils tiennent entre leurs mains la stabilité du système, mais pas seulement du système, de la République elle-même en l'espèce.
Et c'est la possibilité de s'acheter du temps, surtout.
Oui, et puis je pense qu'ils ont hiérarchisé les choses comme il faut les hiérarchiser. On est dans une bataille politique autour de la notion de stabilité aujourd'hui.
Mais alors ça veut dire que
Jean-Marie a tout à fait raison, mais ce qui a fait évoluer en réalité le Parti socialiste, c'est effectivement le fait que l'électorat socialiste, contrairement à ses parlementaires, qui étaient beaucoup plus réservés à un moment donné parce qu'ils s'estimaient tenus par l'alliance avec LFI pour leur future réélection, mais l'électorat socialiste veut de la stabilité, n'était pas pour la censure. Deuxièmement, il y a une chose qui a été extrêmement importante, c'est la tribune commune signée par les partenaires sociaux et le MEDEF, qui appelait à de la stabilité, et donc dans les partenaires sociaux, il y a les syndicats, et ça aussi, le Parti Socialiste y a été sensible, donc c'est une deuxième raison de leur évolution, et la troisième raison, c'est évidemment les ouvertures que semble proposer François Bayrou.
Sur le fond.
Quand on dit il n'y a pas de totem, je crois que c'est l'expression qu'a employée Amélie de Montchalin, c'est pas rien. Un totem, on sait ce que c'est en politique. Et là, en l'occurrence, le totem, c'est quoi? Ce sont les 64 ans. Voilà.
Absolument.
Bon. Et donc, c'est un bouger, pour employer le mot à la mode, extrêmement important de la part du gouvernement. La question étant de savoir si jamais on remettait en question les 64 ans, qu'en dirait Macron, qu'en dira Édouard Philippe, enfin, tout ça aura des conséquences politiques.
Édouard Philippe est venu dans le bureau d'Éric Lombard. Il est parfaitement... Ils sont tous parfaitement au courant des avancées qu'Éric Lombard ne fait rien sans la vague de...
Mais n'empêche que c'était son bilan à lui aussi.
Bien sûr, mais Édouard Philippe explicitement a reparlé de stabilité comme premier objectif.
Oui.
Catherine, que s'est-il passé dans la tête d'Olivier Faure, qui quand même, sa stratégie était de coller à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a fallu, dans le fond, en arriver là, parce que Michel Barnier avait fait le choix du Rassemblement national, en quelque sorte ?
Je le crois. Moi, je pense que ce n'est pas d'abord un bouger dans la tête d'Olivier Faure, c'est d'abord un bouger dans la situation politique. Oui. C'est-à-dire que le fait que Michel Barnier, qui avait fait tout ce qu'il a pu pour obtenir la bienveillance du Front National, du Rassemblement National, ne l'a pas obtenu, il a fait tout. Il a fait les concessions sur le fond et les salam alek qu'il convienne de faire sur la forme. Il a tout fait, il ne l'a pas eu. Donc là, maintenant, je pense que les choses sont claires. Le Rassemblement National fera ce qu'il pense bon pour ses propres objectifs. Et son objectif, c'est la conquête du pouvoir. Et on le comprend. Ce que je veux dire, c'est qu'il est en force dans le pays et il est en force à l'échelle internationale. Ce dont nous avons parlé juste avant, ça a une importance aussi, ça a un impact en France. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pousse vers les idées d'extrême droite. Donc, le fait que le gouvernement prenne conscience que Marine Le Pen ne peut en aucune façon être une alliée solide, moi je crois qu'elle ne peut pas l'être. Ouais. Elle ne peut pas l'être sur le fond, parce qu'elle est, elle porte des idées qui me semblent destructrices pour notre République, mais qu'elle ne peut pas l'être politiquement parce qu'elle a des objectifs de conquête du pouvoir qui se font à l'opposé. Donc, ils ont changé de pied. Ce qui s'est passé, c'est que là, maintenant, on discute avec la gauche, alors que jusqu'à présent, Michel Barnier n'a pas discuté
avec la
gauche.
La logique dans laquelle était installé Michel Barnier, c'était, ça débouchait inévitablement sur l'union des droites. Ouais. Parce ça créditait Marine Le Pen d'avoir les clés en disant oui, non. Donc, c'était vraiment une certaine façon
de s'amener tout droit à l'union des droites. Il a un peu masqué son jeu, Bayrou, parce que quand on a vu le gouvernement tel qu'il l'a dessiné, on s'est dit, non, mais c'est une blague. Nous mettre trois anciens ministres de l'Intérieur, entre Valls, Retailleau et Darmanin, et deux ministres de l'Intérieur, dont un à la justice, on s'est dit, non, mais il est tombé sur la tête, c'est une provocation.
Donc là, vous êtes en train de dire que c'est une divine surprise ?
Parce que moi, je peux vous dire que j'étais très, très, très fâchée quand j'ai vu le gouvernement de Bayrou, parce que Bayrou, je le crédite, Jean-Marie le sait, je lui ai dit, je le créditais d'être plutôt un homme raisonnable, attaché à la démocratie, et donc n'allant pas verser du côté de l'extrême droite, et là je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, quoi ? Et puis là, d'un seul coup, en fait, ce que je n'avais pas vu, parce que je ne le connaissais pas,
c'est la botte secrète de François Bayrou.
Exactement.
C'est Éric Lombard.
Exactement.
Qui est Bernet, il ne faut jamais
l'oublier. Comme on dit, comme Bernet lui-même, le gauchiste qui n'aurait jamais dû être là.
Voilà, donc il est là.
Il n'est certainement pas
un gauchiste.
Directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations.
Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît la gauche. Et qu'est-ce que je... Et là, je vais
qui connaît l'État. Hein.
Qui connaît l'État, mais qui connaît la gauche.
Qu'est-ce que la gauche peut
accepter ? Ce que je veux dire, c'est quand Bayrou dit « on va discuter de la réforme des retraites pendant 12 mois, mais on ne va pas la suspendre », là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il ne bouge pas assez pour que la gauche puisse accepter d'entrer dans une discussion.
Mais c'était le début de la négociation.
Je pense qu'il n'avait pas compris.
Ce qui est intéressant, Catherine, vous qui connaissez bien...
Une Catherine contente aujourd'hui,
non, mais
c'est à noter.
Vous connaissez bien la gauche. Ce qui est intéressant, c'est entendre Éric Lombard expliquer c'est une vraie négociation. C'est-à-dire qu'ils en sont déjà à plusieurs réunions et... Lui-même dit, on est en train de construire une alchimie positive. Sur quoi ça va aboutir ? À un moment, il va y avoir un atterrissage qui sera sans doute une côte mal taillée, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas refaire toute la réforme. Donc, on va voir comment ils vont organiser ça. Mais dans une négociation, il y a forcément des choses qu'il faut concéder des deux côtés. Ce qui est clair, c'est que Éric Lombard, lui, avec l'aval du Premier ministre, il est missionné pour faire des concessions.
Des concessions lisibles.
Des concessions lisibles, évidemment.
Lisibles.
Dans la constitution remarquable.
Dans la constitution du gouvernement Bayrou, parce que Catherine est très étonnée. Mais moi, je pense que dans l'esprit de Bayrou, il a quand même assez bien compris l'état de l'opinion. C'est-à-dire, d'un côté, on veut, tous les sondages le prouvent, de la fermeté sur toutes les questions régaliennes, d'où effectivement la présence
de trois ministres de l'Intérieur.
Et par ailleurs, un autre pied social, où effectivement, il faut donner des gages, il faut revenir probablement sur la réforme des retraites, et il a très bien compris ça. Il y a deux demandes, en fait.
Moi, j'ajouterais, Carole, qu'il faut aussi de l'expérience et un peu de professionnalisme. Barnier, il a constitué une équipe qui était peut-être très bien, mais qui était quand même constitué de chevaux légers dans une situation politique hors norme, complexe, avec des nœuds partout. Et franchement,
oui, mais on
le
peut
ministre
avoir...
qui était à Bercy, on n'a même pas eu le temps de retenir son nom.
Bien sûr, je suis en train de dire que Bayrou est en train de réussir.
Le paradoxe, c'est qu'à mon avis, Bayrou, pour l'instant, pour l'opinion, a plutôt raté son début ses débuts à Matignon avec ce qu'il a fait, qui n'était pas bien compris, mais que sa première ligne pour l'opinion, c'est quand même des gens qui sont sur la sécurité costaud, comme le dit Carole, et ce ministre de l'économie qui mène une négociation au vu et au su de l'opinion sur la question des retraites, c'est quelque chose qui parle beaucoup à l'opinion dans la mesure où, je le rappelle, moi j'ai plutôt défendu la réforme, mais en gros 77 ou 8 Français sur 10 sont opposés à cette réforme, donc c'est quand même
ce serait un succès pour Catherine Tricot. Parce que ça fait longtemps qu'elle nous alertait sur le caractère stratégique et décisif de la question des retraites.
Oui, sur le plan politique,
De fait, on en arrive là.
Oui, il faut voir quel bouger il va y avoir aussi.
Parce que Jérôme Guedj, qui est la personne qui connaît le mieux la question des retraites à gauche, en tout cas, c'est ce que dit Éric Lombard, lui, il a chiffré à 3 milliards le coût du gel. On parle quand même de sommes très importantes dans un moment où l'écart, vous savez, le fameux spread, c'est-à-dire l'écart de la capacité d'emprunt entre l'Allemagne et la France n'a jamais été aussi élevé et quand même met l'économie française sous pression et en difficulté. Donc tout ça a un coût, tout ça. Mais Éric Lombard explique qu'une France sans budget, ça coûte encore beaucoup plus cher. Ouais. Et que si on veut redonner un tout petit peu d'espoir ou d'efficacité à l'économie du pays, il faut ce budget. Mmh. Sans budget, ce sera encore plus.
C'est l'instabilité politique.
On estime que l'instabilité a déjà coûté 0,3% de croissance à la France.
Ouais. Oui, avec donc, des entreprises en plus.
Dans un moment où la croissance, elle est déjà
pas bien
en forme.
Plus l'effet délétère sur le climat social. Donc,
le sondage qui est sorti hier, qui dit en fait que c'est la peur, la honte et la colère qui sont les trois caractéristiques que l'opinion exprime à propos de la situation, ça vous laisse pantois quand même.
Et les chefs d'entreprise, parmi les 100 plus grands chefs d'entreprise, on l'a sondé dimanche à la tribune dimanche, disent qu'aujourd'hui, ils sont en train de regarder leurs investissements vers l'international et pas du tout vers la France. Donc même les principaux chefs d'entreprise français regardent vers l'étranger et plus vers leur propre pays. Alors, parce que la situation est trop instable.
De ce point de vue-là, d'ailleurs, ça serait intéressant de voir si jamais, effectivement, comme on en entend parler, l'âge légal, on revient sur les 64 ans, ça serait intéressant quand même de voir la réaction justement des marchés et de l'extérieur, parce que ça aura peut-être aussi des conséquences de ce côté-là.
Oui, peut-être des conséquences positives si ça débouche sur une meilleure stabilité politique. Oui. Moi, je voulais juste souligner un point, parce que l'enthousiasme général me semble devoir être modulé par une question.
Ils ont été entraînés par le vôtre, par votre enthousiasme à vous.
C'est si rare.
Ce qui est rare,
d'abord,
et ce qu'il faut noter.
Soyons prudents, parce que c'est seulement jeudi prochain, au moment où nous aurons cette même émission, que nous saurons si le gouvernement si la gauche dans son ensemble censure le gouvernement Bayrou ou si les socialistes voire les communistes et les écologistes refusent de s'associer à une censure qui de toute façon sera déposée et votée.
Ce que je voulais dire pour moduler l'enthousiasme général, c'est que ça dépendra véritablement de l'ampleur et de la lisibilité des accords qui seront faits, et évidemment la question des 64 ans sera fondamentale, mais il y en a d'autres, c'est-à-dire que les écologistes, eux, ils sont arc-bouté sur le retour de l'ISF en faveur de la transition écologique. Non, mais on ne peut pas tout avoir, mais si on n'a pas suffisamment, ce que je veux dire, c'est que les socialistes tout seuls, moi je prends le pari que les socialistes tout seuls ne donneront pas leur soutien, parce qu'ils ne peuvent pas être le mouton noir de la gauche. Ils ont payé très très cher d'apparaître les renégats dans la gauche.
On voit bien qu'Olivier Faure, il a tout fait pour inviter hier soir à être accompagné par Marine Tondelier, Fabien Roussel.
Ce que je veux dire, c'est que ça ne se décidera pas simplement
Ils vont tous lâcher Mélenchon alors
Pour moi, c'est tous ensemble ou pas. Pour moi, s'il
oui, mais quand Mélenchon dit la petite,
parce que, non, mais les écolos, les communistes, et les, mais c'est, non, je pense qu'ils ne sont
trop liés.
Moi, je pense que c'est ambigu chez les écolos. Il y a deux parties. Il y a une partie qui est assez radicale et une partie qui est assez social-démocrate. Et on voit bien que, par exemple, quand il y a eu le dernier vote interne chez les écolos, bah, finalement, plutôt les sociaux-démocrates qui avaient gagné.
Ah, on cherche à la loupe quand même.
C'était Jadot qui a été choisi pour les représenter. Donc c'est
mais ça a un peu évolué depuis.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas la gauche dans sa diversité, les socialistes n'iront pas seuls.
Peut-être.
Parce qu'ils ont besoin, quand ils sont écartés du reste de la gauche, ce que ça leur a produit, c'est 1,75% à l'élection présidentielle.
Ça veut dire qu'il laisserait, dans ce cas-là, Mélenchon dans son réduit radical.
Il a compris, parce qu'en parlant de forfaiture...
Absolument.
Oui, mais quand il dit la petite gauche traditionnelle, genre méprisante...
Alors, dernier argument, peut-être que ça l'arrange. Parce que si, excusez-moi, si je me positionne 6 mois plus tard, et qu'on a un budget et qu'il ne satisfait pas, parce qu'il sera compliqué, parce qu'il sera mi-fig, mi-raisin, etc., qui ne satisfait pas tout le monde, qu'il y a de l'insatisfaction qui monte, le seul qui dira « Moi, j'ai tenu, bon, j'ai défendu la gauche », c'est moi, Jean-Luc Mélenchon. Et s'il y a une élection présidentielle, il apparaîtra comme il est apparu en 2022 comme le seul représentant de la gauche.
C'est peut-être le calcul.
Ce qui est certain, Catherine, c'est que de toute façon, dans ce que vous décrivez, il y a ceux qui veulent une élection présidentielle tout de suite, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et ceux qui ont besoin de temps, qui ont besoin que le clivage, que les partis de gouvernement traditionnels,
le temps s'ajoute dans plein de sens.
Retrouve un peu de temps et de stabilité.
Le temps, ça peut jouer aussi dans l'insatisfaction qui monte dans le pays. Et s'il y a de l'insatisfaction et que tout le monde est allé soutenir le gouvernement et qu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui lui auront dit non, eh ben moi, je vous dis que ça fera les choux gras de Mélenchon et de Le Pen.
Enfin, bon, par exemple, sans budget, on ne peut pas donner des aides aux agriculteurs.
L'équation est compliquée. C'est ça que je veux vous dire.
Ils peuvent comprendre ça. Les agriculteurs, ils ont bien compris.
L'équation politique et l'équation économique ne se règlent pas exactement de la même manière.
Merci, on accueille Véronique Reissoul pour la politique sur les réseaux. Petite place. Bonjour à vous. Meilleurs voeux, ma chère Véronique.
Bonne année.
Donc vous allez nous parler, on n'en a pas dit un mot parce qu'on en a beaucoup parlé aussi sur cette antenne, la mort de Jean-Marie Le Pen qui continue à faire polémique même dans sa tombe.
Eh bien, écoutez, monsieur Jean-Marie Le Pen, son décès a mobilisé les internautes parce que quand vous regardez les volumes, vous avez eu 1,5 million de messages en 2 jours. On peut commencer à dire que c'est beaucoup. Ça a beaucoup fait parler. Alors, que s'est-il dit dans ces 1,5 million de messages? Globalement, je ne vais pas vous surprendre, c'était quasiment que négatif ou plus exactement, c'était beaucoup de critiques. Beaucoup de rappels de ses propos, beaucoup d'histoires, beaucoup de vidéos, beaucoup d'archives qui ont permis, entre autres, à la jeune génération de découvrir M. Jean-Marie Le Pen, qui n'était pas si connu que ça. Mais globalement, ce n'était pas très positif. D'ailleurs, c'est à l'image du sondage qu'on vient de sortir ce soir pour Le Figaro, où 68% des Français disent avoir une mauvaise opinion de M. Jean-Marie Le Pen. Mais dans les petits émojis qui n'ont plus de secret pour vous... Vous voyez qu'il y a des gens, ils ont l'air trop, trop contents. Il y a le petit bonhomme qui est content, une petite bouteille de champagne, il y a le youpi, la fête, tout ça.
Il y a ceux qui ont fait soyer.
Bref, des gens ont fait soyer, donc il y a des vidéos qui ont circulé, en particulier Luc Offray a relayé les festivités qu'il y a eu sur la place de la République. Donc il est mort, des centaines de personnes se rassemblent sur la place de la République à Paris pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen. Autant vous dire que les images de cette fête n'ont pas eu le succès escompté, j'imagine, par les gens qui ont fait la fête. Parce que M. Jean-Marie Le Pen n'était pas apprécié des Français, certes, que sur les 1,5 million de messages, il y avait quasiment que du négatif, beaucoup de rappels de son histoire, c'est une chose. Mais ces images de réjouissance de la mort de quelqu'un n'ont pas plu. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est le tweet de Jean-Marie Le Pen lui-même au moment de la mort de Jacques Chirac en 2019 qui a été souvent rappelé en disant « mort même l'ennemi a droit au respect ». Et donc beaucoup l'ont repris. Et finalement, les internautes ont considéré que le mieux, c'était sans doute le deuxième degré, voire troisième degré, voire un peu d'ironie, à l'image de Dominique Farrugia, 2028-2025, petit ange parti trop tôt. voilà, ou du, ou du Gora, qui a beaucoup plu, je vous le dis, qui est une façon finalement plus élégante de raconter son ressenti, ou le Gorafi, qui a eu pas mal de succès avec Jean-Marie Le Pen, devient enfin détail de l'histoire. Ouais. Donc voilà. Donc globalement, les internautes sont toujours parfois plus raisonnables qu'on pourrait l'imaginer, parce que c'était surtout l'humour, la parodie et des petits décalages comme ça qui plaisaient plutôt que d'aller sabrer de champagne sur la place de la République.
Alors, autre sujet très très important, Mark Zuckerberg, donc le
très patron
de Facebook, notamment, enfin entre autres,
voilà,
a fait un changement de politique autour de la modération et des fake news. En quelque sorte, on peut dire qu'il se met au service de la présidence de Trump.
Ben en fait, dans une vidéo qu'il a largement partagée, que je ne vous passerai pas parce qu'elle fait près de 6 minutes, mais en gros, Mark Zuckerberg donc, a expliqué que la modération serait moins stricte dans les conversations, plus compatible finalement avec les vues de M. Trump et des Républicains. C'est donc une opération séduction, vous avez raison, Roselyne. Et pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire en soi, certains sujets pourront désormais être partagés sur Facebook, sur Instagram ou sur WhatsApp, comme critiquer les immigrés ou évoquer les personnes transgenres comme des individus ayant une maladie mentale. Ben ça, vous ne pouviez pas le faire avant. Maintenant, vous pourrez le faire. Ça ne sera plus censuré. Et en gros, ils ont mis fin à leur programme de fact-checking aux États-Unis. Et voilà. Donc, l'idée, c'est en gros de... Il y avait un programme de fact-checking avec les médias. Et donc, il a arrêté en disant, en fait, son explication, Zuckerberg, c'est de dire que les vérificateurs étaient orientés politiquement. Donc, ils ont plus participé à créer de la défiance que de la confiance. Et finalement, l'application d'une liberté absolue d'expression est sans doute ce qu'il y aura de mieux. Donc finalement, voilà. Et d'ailleurs, le tweet qui est derrière, qui est donc de M. Musk, This is cool. Voilà, il est très content. Il est très content. Et ce qu'il a relayé en disant que c'était cool, c'est donc un article de presse où il y a écrit un petit commentaire voilà, qui publie... c'est un article qui dit Facebook donc vire les fact-checkers dans une tentative de restaurer la liberté d'expression. Et en dessous, vous avez une citation qu'on voit pas, mais de Zuckerberg, qui dit que les modérateurs de contenu sont politiquement biaisés tout en proposant un système similaire à celui de X. Vous savez que sur X, vous avez les communautés qui sont interpellées avec plus ou moins d'efficacité. Et donc voilà. Donc c'est voilà, voilà, voilà. Je n'ai pas tellement d'autres commentaires à vous dire.
Non, mais peut-être,
que c'est
Jean-Marie, un mot juste. Ah, vous vouliez finir, pardon.
Non, allez-y.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Non, je voulais vous expliquer, vous donner des exemples de ce que ça va donner.
C'est vraiment le verbatim de tout ce que Trump véhicule, avec évidemment le soutien d'Elon Musk. Ça, ils sont dans une entreprise, qui est totalement idéologique. Donc, voilà, qui est considéré que les gens qui sont tant soit peu critiques sont de toute façon à écarter parce qu'ils sont contre. Soit Trump, soit Elon Musk. Ouais. Ils essaient d'infuser cette doctrine partout sous couvert de liberté d'expression.
Ouais.
Alors qu'en fait, c'est le retour de la jungle. Hein. C'est purement et simplement la jungle.
Et on peut même se demander pourquoi est-ce Zuckerberg fait ça. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle c'est le message dans ce tweet-là. Mais c'est un virage...
Mar-a-Lago, non ?
Quoi ?
C'est parce qu'il allait voir Trump à Mar-a-Lago qui...
Entre autres, ça c'est la théorie qui circule le plus. En réalité, c'est un sujet par rapport à Musk. C'est un sujet de rapport de force. Et depuis Largo, il a déjà fait plein de signes pour dire à Trump qu'il se rapprochait et qu'il allait faire pareil. Par exemple, il a fait rentrer à son board pas mal de personnalités pro-trumpiennes, dont un monsieur qui s'appelle Dana White, c'est le champion des sports de combat aux États-Unis.
Oui, qui s'appelle dans la campagne de Trump.
Et donc, en fait, il essaie de faire rentrer. Et il faut vous dire que les exemples qu'il va y avoir de la disparition du fact-checking, c'est complexe en soi. De toute façon, le fact-checking, c'est un sujet extrêmement complexe au regard des volumes. Mais pour vous donner une petite idée... à quel point c'est complexe. Il y a par exemple un groupe sur Facebook, il y a un monsieur qui s'appelle Major Prepass, c'est une page sur l'enseignement supérieur qui n'est absolument pas politique. Ben lui, il s'est réjoui de la disparition des fact-checkers. Oui. Et quand on lui demande pourquoi, il dit, en fait, je ne pouvais jamais utiliser le nom d'un politique étranger pour des sujets qui n'avaient rien de politique, j'étais systématiquement banné, retiré. Donc en fait... C'est sur ces éléments-là qu'ils jouent, et donc c'est assez compliqué, modéré, comme c'est que dans des logiques sur l'intelligence artificielle ou des critères extrêmement poussés comme là, cet exemple-là, ben ça donne raison, en tout cas ça nourrit ce narratif du « on est pour la liberté d'expression ».
Ce qui est frappant et ce qui est important pour tout le monde, je pense, c'est que voilà un pays qui s'est construit sur l'équilibre des pouvoirs.
Ouais.
Là, sur l'idée de compromis, de respect des minorités, ainsi de suite, et de respect de la parole de l'autre, et qui tourne aujourd'hui à l'oligarchie, mais dans sa version la plus brutale. Parce qu'autour de Trump, il n'y a que des oligarques, et ces oligarques ont une part de pouvoir totalement extravagante. Et donc c'est ça qui met en cause le modèle lui-même, c'est-à-dire les Américains font souvent référence à leur père fondateur, et là les pères fondateurs sont à des années-lumière de ce qui est en train de se passer.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que là ce qui se constate, c'est que tous ces jeunes hommes qui étaient très libéraux pour la liberté, l'émancipation, que les individus du pouvoir puissent s'exprimer patati patata, en fait ils sont devenus des puissances considérables qui n'ont pas du tout été contrôlées et qui sont en train de mettre en danger...
Aucune réglementation.
Aucune régulation, aucune contrainte, qui sont en train de mettre
la jungle,
mettre en danger la démocratie à l'échelle mondiale. Hein.
On peut avoir des faux profils sur Facebook.
Ouais, très facile. Oui, c'est mais ça, c'est pas
problème.
Là où il y en a le
en
plus.
Fait, le vrai problème est là, parce que si...
C'est pas là où il y en a le plus.
Ça fait raison.
Là où il y en a le plus, les profils difficilement identifiables, c'est sur X, c'est sur Insta.
Parce que liberté totale, si on doit l'assumer... en son nom propre, c'est déjà pas pareil. Ça limite. Ouais.
Mais c'est
ça
pour ça que
déjà.
C'est pas si simple. Fact-checking tel que c'était n'était pas non plus la solution. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas en lâchant tout. Et puis.
En donnant tout pouvoir à un homme. Ouais, aussi, parce que c'est quand même, ils ont tout pouvoir.
Hein. Puis ça écrase
les médias.
Il faut
quand même réfléchir un peu parce que ce qui s'est passé en Roumanie, une élection présidentielle a quand même été annulée.
Ouais. Non, mais. On n'a pas le temps là, mais la réponse de l'Europe, elle est. Voilà.
Vous voyez passer une petite vidéo, mais on n'a pas
le temps. Ça écrase les médias parce que, du coup, le patron d'un média ou la patronne d'un média répond devant les juges du contenu de média.
Mais pas eux.
Alors qu'un président Elon Musk ou Zuckerberg,
eux, ils disent
répondent
qu'ils
de
sont
rien
juste
du tout.
Un tuyau et sont juste un moyen pour apporter le contenu. Donc, voilà. Non, la petite vidéo, c'était comme toujours sur Internet. Ça se termine par une blagounette, je voulais juste vous la montrer, mais on peut la mettre en off, sans son, c'est juste c'est de la magie de l'IA, c'est Musk qui est en train d'être copié par Zuckerberg.
Eh bien, on va peut-être la mettre en générique, mais il faut que, on rende l'antenne. Merci Véronique, merci à tous et merci à Simon.
Et vous le font bien, ça, c'est, je ne sais pas si vous rappelez, c'est un Mr Bean. Ah oui, je vais faire ça.
Voilà, très bon. Merci. À bientôt.